De retour, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie Mme Janie Lachapelle. Bonjour Mme Lachapelle.
Bonjour.
C'est comme un spécial INLB là aujourd'hui. J'étais en ligne avec Mme Boulet tout à l'heure, peut-être l'avez-vous entendu, Mme Boulet du comité des usagers. Ben, vous,
oui.
Vous êtes dans l'INLB, vous êtes spécialiste en activité clinique au service d'adaptation de l'information de l'INLB. Et dans ce sens-là, vous avez, on peut dire, là, vous êtes aux premières loges et vous travaillez avec le braille.
Oui, entre autres. On est un service qui, notre mission, dans le fond, c'est de rendre accessible l'information aux personnes, principalement qui ont des limitations visuelles, mais on peut toucher d'autres problématiques de lecture, comme la dyslexie, par exemple.
Oh.
Et notre mandat, en gros, c'est de rendre accessible l'information sous toutes sortes de formes. Donc, oui, bien sûr, on parle du braille, mais on va parler aussi du caractère agrandi, des formats électroniques accessibles avec les aides adaptées, du graphique tactile, on fait du 3D aussi pour rendre accessibles certaines informations qui sont plus d'ordre géospatial à notre clientèle.
Et là, dans ce sens-là, parce que, vous avez donc une foule d'outils à votre disposition, puis en même temps, votre clientèle a des besoins très, très variés, puis et vos plus jeunes et vos plus âgés, la marge est grande, là.
Oui, effectivement, on va couvrir l'ensemble des personnes, autant qui sont en préscolaire, nos tout-petits en préscolaire, tout le parcours scolaire via la réadaptation. On touche un peu plus le scolaire au niveau de l'éducation par rapport au cégep et université, où là, on va faire des adaptations de matériel dans leur parcours scolaire, là, tout le matériel qu'ils ont besoin pour être en mesure de réussir leur cours dans leur parcours scolaire. On va toucher aussi toute la clientèle adulte et aînée via les services de réadaptation. Donc, ça peut toucher autant les activités de la vie quotidienne, l'information en général, ça va toucher les loisirs, l'éducation, le professionnel, bien entendu. Toutes ces sphères-là, là, on est là pour y répondre.
Parce que, oui, et les pathologies qui peuvent survenir et qui résultent en une perte visuelle, ça peut être de tous les ordres. Vous pouvez avoir des personnes âgées qui, tout d'un coup, il y a une dégénérescence maculaire. Ça peut être un tout petit qui, dès sa naissance, avait des problèmes oculaires.
Absolument.
Donc, la courbe d'apprentissage est très différente. Et dans ce sens-là, la technologie a beaucoup changé votre travail depuis 10 ans.
Oui, parce que à l'époque, quand les technologies étaient moins avancées qu'aujourd'hui, on faisait surtout des formats dédiés, hein, ce qu'on appelle le braille papier. C'est un bon exemple de format dédié.
Ça, c'est ce qu'il y a de plus ancien, si je peux dire.
Exactement, et de plus dédié. Hein. On ne peut pas dire qu'on peut donner ça à n'importe qui ne connaît pas le braille tactile et qui va être en mesure de lire la même chose qu'un aveugle en cécité qui sait son braille. C'est ce que j'appelle des formats dédiés. De plus en plus, les technologies nous amènent à penser l'adaptation de l'information d'une autre façon parce que c'est via souvent les aides adaptées que nos usagers vont prendre connaissance de l'information. Et ça, c'est vrai que ça dépend de leur situation visuelle. Il y en a qui vont fonctionner en grossissement, il y en a qui vont fonctionner en synthèse vocale seulement. Il y en a qui vont combiner les deux, le grossissement et la synthèse, ou de l'autre côté, les gens les plus en cécité qu'on appelle, les fonctionnellement aveugles, vont utiliser une synthèse vocale jumelée, s'ils le souhaitent, à un afficheur braille qui va donner accès à l'information, ce qu'on appelle du braille éphémère via une plage tactile. Donc, on n'a plus du braille papier, mais
c'est comme une plaquette où les points de braille se mettent en relief.
Exactement. Au fur et à mesure qu'on va parcourir un écran d'ordinateur, par exemple, avec le curseur, l'afficheur va rendre compte de ce qui est à l'écran, mais à travers un format braille qui va être perceptible au bout des doigts et qui va changer ce...
C'est comme si les petits points, c'est comme si les petits points montaient puis descendaient.
Exactement.
Si je peux dire. Oui, OK.
Donc là, on pense l'adaptation de l'information plus dans une optique à la base des documents, parce que ces aides adaptées-là nous permettent de naviguer sur Internet, nous permettent d'avoir accès à des formats fichiers, à télécharger des choses. Et là, l'importance de l'adaptation de l'information vient dans le fait qu'on souhaite ardemment que les fichiers, les outils, les pages web utilisées par le commun des mortels, si je peux m'exprimer ainsi, soient accessibles.
Et ça, des fois, là, malheureusement, ça, c'est pas toujours le cas, ou ça l'est de façon imparfaite.
C'est loin d'être toujours le cas, malheureusement. Il faut faire des efforts, il faut sensibiliser les différentes instances, qu'on parle à des éditeurs, qu'on parle à des concepteurs de sites web, qu'on parle à des gens qui élaborent, conçoivent des plateformes. Le souci de penser à l'accessibilité dès le départ de cette création-là,
c'est ça
qui est hyper important, et c'est là de plus en plus que mon service, on tend à les mettre des efforts, autant ici à l'interne, dans le réseau de la santé, que partout avec nos partenaires, que ce soit de l'éducation, que ce soit de l'édition. On a comme un mandat d'ambassadeur, si je peux dire, pour vraiment
faire comprendre la problématique. Parce que vous êtes bien placé pour montrer ce qui doit être bien fait.
Exactement, et ce qui arrive quand cela n'est pas le cas.
voilà. Qu'est-ce qui arrive quand ça ne marche pas?
Exactement.
On va revenir à l'apprentissage, parce que le braille, quand on est plus jeune, on apprend plus facilement. Hein, ça, tout le monde le sait, le cerveau des enfants là, est comme une extraordinaire éponge. C'est plus facile pour un enfant en bas âge d'apprendre le braille et de l'intégrer à sa vie que pour quelqu'un qui adulte ou une personne aînée. Là. Donc, l'apprentissage du braille, est-ce que c'est beaucoup plus souvent maintenant le cas d'enfants que de personnes adultes?
Oui, la majorité de l'enseignement du braille se fait au Québec à travers le réseau de l'éducation, donc primaire et secondaire. C'est beaucoup, beaucoup là que les jeunes qui en ont besoin vont apprendre et améliorer leur braille, et en contexte de suivi scolaire aussi, et de lecture et d'apprentissage, qui fait en sorte que ça stimule aussi l'utilisation du braille, hein, vous le dites, là, pour être bon, pour le maîtriser, il faut
s'en servir.
Exactement. Et le fait d'aller à l'école et d'apprendre à écrire, à lire, ben, je pense que c'est le meilleur moyen d'intégrer tout ça aussi pour nos tout-petits.
Parce que c'est international. Si on voyage, puis un menu de restaurant où il y a des indications dans un lieu public qui sont en braille, on va être capable de reconnaître les chiffres d'ascenseur. Hein? Ça, c'est utile.
Oui, chaque langue a son propre code de transcription braille. Il y a des différences, bien entendu, surtout quand on parle de braille abrégé. Certaines langues, comme les anglophones, vont encore beaucoup utiliser le braille abrégé parce qu'il est beaucoup plus simple que dans d'autres langues. Donc, ça peut devenir un frein quand on voyage, par exemple, si on ne connaît pas son braille anglais abrégé. Les chiffres, relativement, sont les mêmes partout. C'est pour ça que dans la francophonie, au Québec, on a gardé les chiffres, ce qu'on appelle Louis Braille, dans les lieux publics, parce que dans les documents, on utilise les chiffres qu'on appelle Antoine, qui étaient les chiffres utilisés avant la réforme de 2008 par la francophonie, à part le Québec. Donc, dans le littéraire, on a adopté les chiffres des Français, si on peut s'exprimer ainsi, mais dans notre milieu de signalisation en Amérique du Nord, on a souhaité garder les chiffres Louis Braille, étant donné justement que c'est les mêmes dans toute l'Amérique du Nord et qu'on voulait permettre là, justement une uniformisation pour que ça soit reconnu autant par un public anglophone ou par des voyageurs, bien entendu.
Voilà. Il y a un aspect de votre travail aussi qui, moi, je trouve ça fascinant, c'est comment vous pouvez aider le rapport je pense, c'est une expérience qui vous touche, le rapport entre, mettons, des parents handicapés visuels et des enfants qui voient, et vice-versa, des parents voyants qui ont des enfants handicapés visuels.
Oui, mais on a développé un bel outil qui est très populaire et qui s'adresse à des tout-petits qui sont souvent avant même l'âge d'apprendre à lire et à écrire, ce qu'on appelle là, les enfants, soit en maternelle 4 ans ou vraiment en découvrir l'écriture et la lecture, un peu comme des enfants voyants. Tous les enfants voyants reconnaissent le M du McDonald's. Hein? C'est un classique international.
Ah oui, tout à fait.
Mais ça fait partie d'apprendre à ce qu'il y a une codification qui existe dans société pour représenter la parole, le langage, etc. Les tout-petits qui ne voient pas doivent aussi apprendre ça parce que c'est la prémisse à apprendre à lire
universel,
et à écrire. Exactement. Il faut comprendre que le langage a une représentation écrite et qui permet une lecture et une compréhension. Alors, on a développé des outils qui s'appellent des duomédias. C'est des livres d'enfants dans lesquels on va ajouter une pellicule plastique ou qui reproduit le texte d'une page. Donc, on a à la fois l'imprimé et le braille dans une même page qui permet à la fois d'un parent voyant de faire la lecture.
De lire
et
l'histoire.
Et de déjà sensibiliser l'enfant à toucher. Ça, c'est des lettres, à en reconnaître quelques-unes, peut-être celles de son nom, tranquillement, tactilement. Mais déjà, lui faire prendre conscience que ce que papa, maman lit, raconte, c'est écrit dans un livre.
Cette histoire-là, elle n'existe pas juste oralement, mais elle existe dans un médium qui est le livre.
Exactement. Et le contraire est aussi vrai. Moi, je suis une maman cécité. J'ai deux enfants voyants qui sont rendus grands maintenant et qui lisent seuls. Mais quand ils étaient tout petits, moi, je pouvais faire la lecture à mes enfants via le braille dans mes pages. Et mes enfants voyaient l'imprimé et les images. Donc, eux aussi étaient sensibilisés à l'écrit, leur écrit, leur lettre imprimée. Oui. En plus d'être sensibilisés au fait que maman, elle, lit des petits
faisait les choses différemment, mais que ce soit deux codes, le fait, c'est que c'est universel. Que l'écrit ou la transmission de ce qui est oralement partagé, ça existe. Et comme vous dites, tous les enfants connaissent le M de McDonald's ou la grosse pomme d'Apple.
C'est ça.
Puis on sait comment
ça. Le braille permet aussi de faire l'association en syllabes, en mots. Oui. C'est le même mécanisme. C'est seulement une représentation différente de chacune des lettres qui est tactile, mais les consonnes, les accords, les syllabes.
L'orthographe, c'est important parce que plus tard dans la vie, des orthographes uniquement phonétiques, là, ça paraît mal quand on veut trouver un emploi.
Exactement. C'est pour ça qu'on demande à nos jeunes dans les premières années scolaires, là, tout le primaire et le début du secondaire, de beaucoup fonctionner en braille, beaucoup plus qu'à la synthèse vocale. Parce que la synthèse vocale, bateau,
ça
peut s'écrire de plusieurs
façons. Ben oui, tout à fait. Exactement, c'est un bel exemple. Ben, Madame Lachapelle, merci beaucoup de nous avoir partagé cet univers-là. Et je pense qu'il faut retenir, c'est qu'il existe des outils pour tous les âges et tous les besoins. Alors, il ne faut pas penser qu'on trouvera pas, si je peux dire, chaussures à son pied. Ben,
exactement.
Voilà.
On essaie de faire des adaptations là, qui vont convenir à toutes sortes
de pathologies.
Exactement, et à toutes sortes de situations de la vie courante.
Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir informés.
Ben,
à bientôt.
Merci. Merci, au revoir.